Chapitre 30. Deux protons. L'enquêteur. Nous allons commencer l'interrogatoire du jour. J'espère que vous vous montrerez aussi collaboratif que la dernière fois. Iwenji. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. En réalité, c'est moi qui ai besoin d'en apprendre de votre bouche. L'enquêteur. Je ne crois pas que vous nous ayez tout dit. Tout d'abord, ce que nous avons besoin de connaître, c'est le contenu des informations transmises par Trisolaris à la Terre et qui ont été interceptées par les Adventistes. Iwenji. Je l'ignore. Leur organisation est très secrète. Je sais uniquement qu'ils ont dissimulé certaines transmissions. Bien, passons à un autre sujet. Après que les échanges avec Trisolaris sont tombés sous le monopole des Adventistes, avez-vous construit une troisième côte rouge? Nous en avons eu l'idée, mais nous n'avons finalement conçu qu'un appareil de réception et la construction a été stoppée. L'équipement et la base ont été démantelés.
Pour quelle raison?
Parce que aucun message ne provenait plus d'Alpha du Centaure. Il n'y avait plus rien à cette fréquence. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de le vérifier.
C'est exact. Vous voulez donc dire que, au moins durant ces quatre dernières années, Trisolaris aurait cessé de communiquer avec la Terre? Cela rend d'autant plus important le contenu des messages détournés par les Adventistes.
En effet, mais je ne peux vraiment rien vous dire de plus à ce sujet. L'enquêteur marqua une pause de quelques secondes.
Dans ce cas, discutons d'autre chose. Mike Evans vous a menti, n'est-ce pas?
On peut le dire comme ça. Il ne m'a jamais véritablement révélé le fond de sa pensée. Il m'a seulement parlé du sens du devoir qu'il ressentait vis-à-vis des autres créatures vivantes de la Terre. Je n'ai jamais pensé que ce sentiment avait fait naître chez lui un dégoût de l'humanité si extrême qu'il était prêt à faire de la destruction de l'homme son idéal ultime.
Observons la situation actuelle de l'organisation Terre Trisolaris. Les Adventistes veulent se servir d'une force extraterrestre pour détruire l'humanité. Le camp rédemptoriste vénère cette civilisation, qu'il considère comme divine, et l'objectif des survivalistes est de trahir l'humanité en échange du salut de leurs descendants. Aucune de ces tendances n'est en fait conforme à votre idéal premier de réformer l'humanité grâce à la civilisation extraterrestre.
J'ai allumé un feu, mais je n'ai pas été en mesure de contrôler l'incendie.
Vous avez projeté d'éliminer les Adventistes de l'organisation, et vous avez même commencé à mettre ce plan à exécution. Le quartier général et le centre de commandement Adventiste sont basés à bord du Jugement Dernier. Mike Evans et les autres leaders de son camp s'y trouvent la plupart du temps. Pourquoi ne pas avoir tout simplement attaqué le navire? Les forces armées rédemptoristes vous sont presque entièrement acquises. Vous auriez pu couler le bateau. Ou le capturer.
À cause des messages des dieux que les Adventistes ont interceptés. Ces informations sont toutes sauvegardées dans le système de la seconde base de Côte Rouge, c'est-à-dire sur un ordinateur à bord du Jugement Dernier. Si nous avions attaqué le bateau, les Adventistes auraient pu sentir que leur fin était proche et supprimer ces informations. Ces messages sont trop importants pour que nous prenions le risque de les perdre. Pour les rédemptoristes, perdre ces messages, c'est comme perdre la Bible pour les chrétiens ou le Coran pour les musulmans. J'imagine que vous faites face au même problème. Les Adventistes gardent ces messages divins en otage, et c'est la raison pour laquelle le Jugement Dernier est encore intact.
Avez-vous des conseils à nous donner à ce sujet?
Non.
Vous aussi, vous parlez de Trisolaris en termes divins. Cela veut-il dire que, comme les rédemptoristes, vous avez développé une foi religieuse pour le monde trisolarien? Ou que vous vous êtes converti au trisolarisme?
Non, ce n'est qu'une question d'habitude. Je ne veux plus parler de ça.
Dans ce cas, revenons aux informations interceptées. Vous en ignorez peut-être le contenu précis, mais vous avez certainement une idée générale de leur teneur.
Ce ne sont peut-être que des rumeurs.
Par exemple, Trisolaris a-t-elle transféré aux Adventistes des technologies plus avancées que les technologies humaines actuelles? Ça m'étonnerait beaucoup, car ce serait courir le risque que ces technologies tombent entre vos mains.
Une dernière question est la plus importante. Jusqu'à aujourd'hui, Trisolaris a-t-elle seulement envoyé sur Terre des transmissions radio?
Presque.
Presque?
La civilisation trisolarienne actuelle est capable de voyages interstellaires à une vitesse équivalente à un dixième de la vitesse de la lumière. Cette avancée technologique date d'il y a quelques dizaines d'années terrestres. Auparavant, la vitesse maximale de leur vaisseau stagnait aux alentours d'un millième de la vitesse de la lumière. Leurs minuscules sondes spatiales n'ont même pas encore parcouru un centième du voyage qui les mènera de leur planète jusqu'à la nôtre.
Une question, si la flotte trisolarienne est déjà en route et qu'elle voyage à une vitesse correspondante à un dixième de la vitesse de la lumière, elle devrait mettre seulement 40 années avant d'arriver dans le système solaire. Pourquoi parlez-vous de 400 ans?
En théorie, vous avez raison. Mais la flotte trisolarienne est composée de vaisseaux spatiaux de très grande taille dont le processus d'accélération est très lent. Un dixième de la vitesse de la lumière est la vitesse maximale qu'ils peuvent atteindre. Mais ils ne peuvent rester à cette vitesse de croisière qu'un très court laps de temps, car ils doivent commencer à décélérer à l'approche de la Terre. Par ailleurs, un champ magnétique puissant se trouve en permanence devant le vaisseau. Celui-ci forme une sorte d'entonnoir magnétique destiné à collecter des particules d'antimatière dans l'espace. Leur annihilation par des particules de matière ordinaire fournit en effet la propulsion de leur vaisseau. Or, ce processus de collecte est très lent. Ce n'est qu'après une assez longue période de temps qu'il est possible d'amasser une quantité suffisante d'antimatière pour permettre au vaisseau d'accélérer, de sorte que l'accélération de la flotte est intermittente. C'est pourquoi le temps que mettra réellement la flotte trisolarienne avant d'atteindre le système solaire est 10 fois plus long que celui d'une petite sonde.
Que signifie le « presque » que vous venez d'utiliser?
Lorsqu'on parle de la vitesse d'un voyage spatial, il faut avant tout se mettre d'accord sur l'échelle. Il existe une échelle où même la civilisation arriérée des humains est capable de faire accélérer des entités de matière à une vitesse proche de celle de la lumière.
L'enquêteur marqua une pause. Vous voulez parler des échelles macroscopiques et microscopiques, n'est-ce pas? À une échelle microscopique, les hommes sont déjà capables d'utiliser des accélérateurs à haute énergie pour permettre à des particules subatomiques d'atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Ces particules, ce sont les entités de matière dont vous parlez?
Vous êtes très intelligent.
L'enquêteur pointa son casque. J'ai les plus grands spécialistes au monde derrière moi.
Oui, je veux bien parler de particules subatomiques. Il y a 6 ans, dans le lointain système stellaire d'Alpha du Centaure, le monde de Trisolaris a utilisé un accélérateur de particules pour envoyer dans notre système 2 noyaux d'atomes d'hydrogène à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces 2 noyaux d'hydrogène, ou protons, ont atteint le système solaire il y a 2 ans, avant d'arriver sur Terre.
2 protons? Ils n'ont envoyé que 2 protons? Autant dire qu'ils n'ont presque rien envoyé.
Iwenji répondit dans un sourire. À votre tour d'utiliser le mot presque. C'est le maximum que puisse faire Trisolaris. Envoyer un objet de la taille d'un proton à une vitesse proche de la lumière. C'est pourquoi à une distance de 4 années-lumière, ils ne peuvent envoyer que 2 protons.
À une échelle macroscopique, ces 2 protons ne sont rien. Un seul cheveu de bactérie contient à lui seul des milliards de protons. À quoi servirait un proton?
C'est un verrou.
Un verrou? Que veulent-ils verrouiller?
Les progrès de la science. À cause de l'existence de ces 2 protons, l'humanité sera incapable de faire la moindre avancée scientifique durant les 4 siècles et demi que mettra la flotte trisolarienne à arriver sur Terre. Si on en croit Evans, le jour où ces protons sont arrivés sur Terre a été signé la mort de la science.
C'est un peu surréaliste.
Comment cela est-il possible ?
Je l'ignore. Vraiment. À côté des Trisolaria, nous ne sommes peut-être même pas des barbares primitifs. Nous ne sommes que des vermines grouillantes.
Il était déjà près de minuit lorsque Wang Miao et Ding Yi sortirent du centre d'opération militaire. Ils avaient écouté en direct l'interrogatoire de Yiwenji. «
Crois-tu ce qu'a raconté Yiwenji ?» demanda Wang Miao.
« Et toi ?»«
Il s'est passé tellement de choses incroyables ces derniers temps. Mais deux protons capables de verrouiller tous les progrès scientifiques humains, c'est un peu... »
Concentrons-nous d'abord sur une chose. Trisolaris a envoyé depuis le système d'Alpha du Centaure deux protons vers la Terre, à 4 années-lumière d'ici, et ils ont atteint leur cible. Ce degré d'exactitude est extraordinaire. Le chemin jusqu'à la Terre est semé d'embûches, la poussière interstellaire par exemple, sans compter que le système solaire et la Terre sont sans cesse en mouvement. Cela demande une précision plus grande encore que d'abattre un moustique depuis Pluton. Les talents du sniper qui a réussi ce coup doivent être inouïs. En entendant sniper, le cœur de Wang Miao s'emballa.
Qu'est-ce que cela explique ?
Je ne sais pas. D'après toi, à quoi ressemble une particule subatomique comme un proton ou un neutron ?
Je dirais à un point, mais un point avec une structure interne, bien sûr.
Par chance, la représentation que je m'en fais est plus réaliste que la tienne, dit Ding Yi avant de jeter le mégot de sa cigarette. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il à Wang Miao en pointant le mégot. « Un filtre de cigarette ? » ?»«
Bien. En le regardant d'ici, comment le décrirais-tu ? » ?»«
Un simple petit point. » »«
Précisément. »
Ding Yi marcha pour ramasser le mégot. Puis il l'ouvrit devant les yeux de Wang Miao, révélant ses minuscules filaments spongieux jaunis. Wang Miao sentit une odeur de goudron brûlé. Ding Yi poursuivit.
« Comme tu le vois, un si petit machin, une fois ouvert, possède une surface d'adsorption aussi grande que celle d'un salon. »
Il jeta à nouveau le mégot.
« Tu fumes la pipe ?» demanda Ding Yi.
« Je ne fume plus rien. » Les pipes utilisent un autre type de filtre, plus avancé, à 3 yuan le filtre. Leur diamètre est à peu près le même que celui des filtres de cigarettes, mais un peu plus long. C'est un tout petit tube en papier rempli de charbon actif. Si tu enlèves le charbon actif, il te reste des petites particules de noir de carbone, comme des crottes de souris. Mais à l'intérieur, la surface d'adsorption formée par les minuscules petits trous est aussi vaste qu'un terrain de tennis. C'est la raison pour laquelle le charbon actif a un remarquable pouvoir adsorbant.
« Où veux-tu en venir ?» demanda Wang Miao, qui l'écoutait très attentivement.
« L'éponge ou le charbon actif à l'intérieur des filtres sont en 3 dimensions. Mais leur surface d'adsorption, elle, est en 2 dimensions. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'une minuscule structure de haute dimension peut contenir une immense structure de plus faible dimension. À l'échelle macroscopique, la capacité d'un espace de haute dimension à contenir un espace de plus faible dimension s'arrête à cette limite, car Dieu est radin. Lors du Big Bang, il n'a donné que 3 dimensions à notre monde macroscopique. Mais cela ne veut pas dire pour autant que d'autres dimensions, plus grandes, n'existe pas. 8 autres dimensions supplémentaires sont emprisonnées dans l'échelle microscopique. Si on les ajoute aux 3 dimensions du monde macroscopique, il existe donc en réalité 11 dimensions de particules élémentaires.
Et alors ?
Je voulais simplement expliquer un fait. Dans l'univers, un marqueur important pour jauger le niveau de technologie d'une civilisation est sa capacité à contrôler et à utiliser ses dimensions microscopiques. Pour ce qui est des particules élémentaires, nos ancêtres nus et poilus ont commencé à les utiliser lorsqu'ils allumaient des feux dans leurs grottes. Contrôler une réaction chimique revient ni plus ni moins à manipuler des particules microscopiques. Bien entendu, ce genre de contrôle a évolué depuis l'époque primitive,
Nous sommes passés des feux de camp aux machines à vapeur et des machines à vapeur aux générateurs électriques. À présent, le niveau de contrôle des particules microscopiques à une dimension macroscopique a atteint son apogée. Nous avons des ordinateurs et aussi vos nanomatériaux. Mais tout cela est encore limité à un contrôle des particules à une échelle macroscopique. Aux yeux de civilisations plus avancées dans l'univers, le feu, les ordinateurs et les nanomatériaux sont de même nature, et ils appartiennent tous au même ordre. C'est la raison pour laquelle les trisolariens considèrent les humains comme de la vermine. Et, hélas pour nous, ils ont raison. Peux-tu être plus précis? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec les deux protons? Que sont-ils capables de faire une fois sur Terre? Comme vient de le dire l'enquêteur, un minuscule cheveu d'une bactérie peut contenir à lui seul des milliards de protons. Même si ces deux protons se transformaient entièrement en énergie sur le bout d'un de mes doigts, je ne sentirais peut-être rien d'autre que la sensation d'une piqûre d'épingle. Tu ne sentirais rien du tout? Même s'il se convertissait en énergie dans une bactérie, la bactérie ne sentirait rien. Mais alors que veux-tu dire? Rien. Je ne sais rien. Que peut savoir une vermine? Mais tu es une vermine physicienne. Tu en sais forcément plus que moi. Disons qu'au moins tu n'es pas aussi perdu que moi face à ces événements. Explique-moi. Fais comme si je te suppliais, sinon je crois que je n'arriverai pas à dormir cette nuit. Si je t'en dis davantage, tu auras encore plus de mal à t'endormir. Laisse tomber. Pourquoi se faire du souci pour tout ça? Nous devrions suivre la philosophie de Wei Cheng et Shi Xiang, nous attacher à faire du mieux que nous pouvons. Viens, allons boire un verre, puis retournons à notre sommeil de vermine.